peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, on se met en selle pour 25 minutes ?
En selle.
Alors, on va prendre le cheval au mot, et aujourd'hui le mot « manège ». Alors c'est un emprunt à l'italien maneggio dans le sens de dressage des chevaux. Maneggio dérive du verbe maneggiare et plus simplement au XIVe siècle dans le sens de dresser un cheval.
Moi je dis que c'est une salle de gymnastique pour chevaux et pour cavaliers.
C'est aussi cela.
Exactement. Il faut y avoir la concentration, il faut y avoir le silence, il doit y avoir toutes les commodités qui permettent au cavalier de se réaliser et au cheval aussi.
Et au cheval aussi, tout à fait. Et le silence, hein, Jean-Yves.
Voilà, c'est une cathédrale, c'est un temple, c'est un endroit de recueillement.
Alors, ce mot vient en fait de manier, donc il dérive de mano, la main, tout simplement, manège, manier, la main. Alors, manège, qui désigne d'abord l'action de dresser les chevaux, hein, c'est d'abord ça, s'applique au début du XVIe siècle au lieu où s'effectue le dressage des chevaux, donc ce que tu as dit, le manège où on s'occupe des chevaux, on dresse les chevaux, sens qui s'impose jusqu'à aujourd'hui. Au début du XVIIe siècle, le mot est employé dans le sens de manière d'agir, de se comporter, mais avec une connotation péjorative, un comportement certes adroit, mais néanmoins artificieux, par allusion aux chevaux pliés par le dressage et qui répondent à toutes les sollicitations. Donc tu vois, ça prend une connotation un petit peu pas terrible, quoi. Je pense que tu ne dois pas être très très d'accord avec ça.
Non, je suis plus pour la gymnastique, moi, pour l'exercice librement consenti.
Alors, les manèges, donc, sont des vastes salles rectangulaires, bordées de pistes que l'on construit particulièrement au XVIIIe siècle en France pour répondre au désir de la noblesse qui souhaite acclimater dans notre pays les compétitions hippiques comme cela se pratiquait déjà en Angleterre. Le mouvement s'amplifie quand la bourgeoisie française, désireuse d'imiter la noblesse, fait construire ses propres manèges. L'engouement pour cette équitation en salle donne alors l'idée d'organiser des spectacles équestres, les célèbres carousels qui se transforment rapidement en équitation de cirque, dont l'écuyer François Baucher fut l'un des promoteurs les plus réputés au XIXe siècle.
Mais à l'origine, le carousel était un entraînement pour la guerre.
Était un entraînement pour la guerre et qui se faisait du reste en plein air. C'est vraiment, effectivement, aussi... l'entraînement se fait maintenant dans une salle. Alors, l'un de ces manèges est resté célèbre, c'est le manège des Tuileries, bâti en 1720 par le roi Louis XV est passé dans notre histoire puisqu'il fut le lieu où l'Assemblée législative y proclama la République le 21 septembre 1792. C'est au manège des Tuileries. Alors à ton avis, Jean-Yves, l'envie de monter à cheval, ça trappe-t-elle sur un manège de chevaux de bois ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Pour l'apprentissage, un cheval de bois, maintenant il y a bien le cheval mécanique, donc pourquoi pas, hein ? Mais c'est vrai que le manège, c'est un peu ça, quoi. Les enfants montent sur les chevaux de bois et puis commencent à faire leurs premières armes sur les chevaux de bois.
Voilà.
Ce qu'on faisait, nous, à la cour de la récréation, on jouait au cheval, on s'attachait des guides au bras, et puis on faisait le piaffé, le passage, le pas d'école, la courbette, la cabriole, on sautait en l'air, en fait, donc tout ce que faisaient les chevaux, on le reproduisait.
Donc, aux jeunes parents, il est bien d'amener, quand il y a un cirque, d'amener les enfants sur les chevaux de bois aussi. Ça peut donner envie de passer ensuite au poney et puis peut-être, pourquoi pas, au cheval.
C'était les premiers jouets. Autrefois, on achetait un cheval de bois à un enfant et il commençait à jouer avec le cheval. Et puis après, par le temps, par la suite, il prenait un cheval vivant.
C'est vrai. Ouais. Souvent, même on piquait à notre grand-mère ou à notre mère un balai.
Un balai, exactement. Oui, ça se
fait. Tu l'as fait aussi, voilà. Et on s'est engueulé quand on le rapportait pas assez vite. D'accord, ok. Bon, donc le cheval de bois pour passer ensuite au poney. Alors aujourd'hui, on va parler des Vikings et des chevaux. Alors quand on évoque les Vikings, la première image que l'on a est celle de marins scandinaves, hardis et aventureux, montés sur des bateaux non pontés, les fameux drakkars. Drakkar qui veut dire dragon, du reste, serpent, dragon. Alors l'histoire nous apprend qu'ils ravagèrent les côtes de l'Europe occidentale à partir du IXe siècle, au cours de rapides raids d'été qui laissèrent d'eux l'image de guerriers impitoyables et quasiment invincibles. Cette image est le même pour les populations d'Europe orientale. Donc vraiment, les Vikings, ouf, ils faisaient peur. Toujours à la même époque, le 9e siècle, une nation viking, les Rousses, remontent les grands fleuves, en particulier le Dniepr. Ils ravagent les plaines de l'Ukraine sous le commandement de Rurik, qui fonde la ville de Novgorod vers 860, puis celle de Kiev pour débouler jusqu'à Constantinople, qu'ils tentent de prendre. Il semble que ce soit ces Rousses qui aient donné du reste le nom à la Russie. La Russie, le pays des Rousses. Enfin, on se rappelle que ce furent les Vikings qui découvrent et colonisent l'Islande, donc l'Islande, Iceland, la terre de glace, et le Groenland, Greenland, la terre verte, au 9e et au 10e siècle. Ils furent les premiers occidentaux à aborder sur les côtes nord-américaines en l'an 1000, et qu'ils baptisèrent le Vinland, Vin, vin, land, terre, donc la du terre vin. De la vigne, puisque à l'endroit où ils ont débarqué, on ne sait pas trop si c'était le nord des États-Unis ou le sud du Canada, si je puis dire, mais beaucoup de vignes sauvages poussaient. Et donc ils ont appelé cette terre le Vinland. Alors c'est un siècle plus tôt, 8e siècle, que les Vikings font de nombreuses incursions sur les côtes occidentales de l'Europe. Leurs premiers raids sérieux sont menés d'abord en Angleterre, et beaucoup en Écosse, puis en France après le règne de Charlemagne. Ils attaquent Paris en 845, mais sont repoussés. Ils s'établissent 50 ans plus tard à l'embouchure de la Seine. Alors le roi de France, Charles le Simple, incapable de les combattre, achète la paix par un traité qui cède aux Vikings et à leur chef Roland, le fameux Roland, ne pas confondre avec Roland, le neveu de Charlemagne, ah ben oui, Roland. Et donc ce Roland qui deviendra, qui s'installera en Normandie et qui seront donc nommés ces gens-là les Normands, donc Norsemanni qui signifie homme du Nord. Norsemanni, homme du Nord. Mais les conquêtes continuent. 11e siècle, le duc de Normandie Guillaume le Conquérant, qui était donc un Normand, conquiert l'Angleterre. C'est la grande victoire de Hastings, n'est-ce pas? Alors, cette grande saga a été racontée, brodée sur une grande tapisserie toujours visible aujourd'hui, la célèbre tapisserie de Bayeux, dite tapisserie de la reine Mathilde. À la même époque, les Normands s'emparent de l'Italie du Sud et de la Sicile, où ils fondent plusieurs royaumes, et en particulier la Sicile, où ils sont restés très très longtemps, et dont ils ont fourni une grande partie des troupes qui ont participé ensuite aux croisades, puisqu'ils se sont christianisés, et de là, c'était en fait une espèce de tête de pont, à la fois sur l'Afrique du Nord et sur le Proche-Orient, donc les fameux chevaliers de Sicile. Alors, le nom viking est en fait un titre nobiliaire scandinave qui signifie roi, tout simplement. On les appelle vikings, mais pour eux, c'est roi. Pour les Grecs, les Russes ou encore les Arabes, ils sont connus sous le nom de Vareg, qui signifie les marchands. Les marchands. Et marchands, ils le sont effectivement avant tout. Outre l'ambre récolté sur les plages de la Baltique, ils font également le commerce d'un fer très pur, indispensable pour forger les outils et les armes de haute qualité. Ils tirent également l'essentiel de leurs revenus en vendant sur les marchés de Constantinople les populations slaves d'Europe centrale et orientale capturées lors de leur raid et réduite en esclavage. Donc ce sont, enfin ils pratiquent l'esclavage et du reste il semblerait que le terme cette communauté linguistique, culturelle et linguistique qu'on appelle les slaves, esclaves, vient de la même racine. Voilà. C'est-à-dire les esclaves, les slaves. Donc ce qui veut bien dire que les vikings ont été assez esclavagistes, si je puis dire, trafiquants d'esclaves. Alors, agriculteurs, éleveurs, marins exceptionnels, bien évidemment, qui néanmoins savent affronter l'Atlantique Nord sans boussole, ils ont fait ça sans boussole, charpentiers de marine, orfèvres ou encore marchands habiles, les Vikings sont tout cela. Avec quelque chose de plus, ce sont de redoutables cavaliers. C'est ce que le messager du cheval va vous conter maintenant, après une pause musicale. Alors, du flamenco, Sabicas, le grand guitariste Sabicas, Taconeo Gitano. Un ancien texte raconte comment le roi viking Sigurd fit habiller, selon la vieille coutume, son prédécesseur Harald Hildetand, tué à la bataille de Bravalla. Il place le défunt sur un char de guerre et le fait entrer avec son cheval de bataille dans un grand tumulus. Avant de fermer celui-ci, les nobles et les guerriers déposent les boucliers et les armes du défunt. Cette façon d'honorer le guerrier mort est habituelle. Ainsi, dans le tumulus d'Osberg, en Norvège, où fut enterrée au IXe siècle la reine Asa, les archéologues ont retrouvé, outre un petit drakkar parfaitement conservé et que l'on peut admirer au musée d'Oslo, un petit char, les squelettes de 10 chevaux et de 2 bœufs, ainsi qu'une selle et différentes pièces de harnachement. Un autre tumulus, celui de Bor, également en Norvège, contenait cette fois plusieurs squelettes de chevaux, des selles, des plaques de bronze venant de harnais d'attelage, ainsi que des morts. En fait, les vikings étaient non seulement les rois de la mer, mais aussi des centaures, on peut dire, hein, des grands cavaliers. Il est difficile de se faire une idée du cheval viking, par contre. Alors, on sait, grâce au squelette retrouvé, qu'il était d'assez petite taille, entre 1m35 et 1m45 au garrot, pour les plus grands. Peut-être ressemblait-il à l'actuel poney Fjord, mais là encore, les documents qui nous le représentent avec une crinière tombante, donc nous représentent le cheval viking avec une crinière tombante, alors que le Fjord, Jean-Yves, possède une crinière naturellement...
Mais est-ce qu'ils transportaient leurs chevaux sur leur bateau?
Oui, bien sûr. Parce que... Alors, ils avaient justement, on parle beaucoup des drakkars, qui étaient en fait les petits bateaux de guerre rapides, mais en fait, ils avaient des snjor, qui étaient des bateaux, des espèces de cargos en bois, toujours pas pontés.
Parce que pour les croisades, il y avait des nefs spéciales, qu'on appelait des nefs huissières, pour transporter les chevaux, avec des bafflants et avec des suspentes pour les tenir, voilà, en cas de tempête.
Alors, les snjor, effectivement, ça leur permettait, quand ils faisaient des grandes migrations, effectivement, de mettre à la fois le bétail, des chèvres, des bœufs, mais aussi des chevaux, bien évidemment. Et alors, ils avaient pris, quand ils allaient en Russie, ils avaient pris l'habitude de... ils remontaient les fleuves jusqu'à ce qu'ils soient gelés, et là, ils mettaient leurs bateaux, leurs drakkars ou leurs snjor sur des espèces de grands skis. Tiens. Voilà. Et ils les tiraient, et donc sur la glace, avec les skis, avec les chevaux, ou surtout avec les bœufs. Voilà. Alors, en revanche, donc, les trouvailles archéologiques permettent de se faire une idée précise du harnachement viking. En fait, il ressemble assez au harnachement mongol, et l'on peut imaginer que c'est à Constantinople que les vikings en ont trouvé les modèles, parce qu'ils ont beaucoup voyagé, ces sacrés vikings. Alors, la selle faite en bois est recouverte de cuir, et avait des battes élevées et d'égale hauteur à l'avant et à l'arrière, et se terminait en volute. Outre le fait de bien caler le cavalier, ces battes avaient pour fonction de protéger le ventre et les reins du combattant, évidemment. Mmh. Voilà. Le pommeau était légèrement incliné vers l'intérieur. Les quartiers avaient la forme d'un trapèze. La sangle disposait d'un système de boucles qui permettait au cavalier, alors là c'est intéressant, permettait au cavalier cette sangle de ressangler sans devoir descendre de cheval. Dispositif pratique dans les actions de chasse ou de combat. C'est-à-dire que tout en galopant, le cavalier pouvait ressangler sa sangle.
Ah, mais c'était des spécialistes, alors.
Parce que oui, tout à fait.
C'est assez difficile de ressangler en galopant.
Voilà, donc c'était en fait une boucle avec une sangle qui pendait. Il suffisait de prendre cette sangle et de cette lanière et de tirer dessus pour ressangler la selle et éviter de qu'elle tourne et de se casser la figure. Et enfin, le siège était rigoureusement plat. Donc on voit bien que c'est la selle mongole, en réalité. À peu de choses près, c'est la selle mongole dont les Arabes se sont inspirés par la suite aussi, en reprenant un petit peu les mêmes concepts. Alors, la selle était maintenue au moyen d'un large collier de chasse, ce qui l'empêchait de glisser vers l'arrière, hein, surtout pour les coups de lance. Alors, eux ne tenaient pas les lances comme les chevaliers, ils n'avaient pas des lances avec un arrêt, mais enfin, malgré tout, sur l'impact, ça secouait un peu, donc il fallait empêcher la selle d'aller vers l'arrière. Alors, on retrouve ce modèle de selle sur un pion de jeu d'échecs donné à Charlemagne par le calife abbasside Haroun el-Rachid, qui lui a fait ce cadeau-là. Et la selle était équipée d'une paire d'étriers en fer dont la forme est exactement la même que celle des étriers modernes. Alors ça, véritablement, on ferait pas la différence. Alors la bride ressemble elle aussi à une bride classique d'aujourd'hui. Hein, rien de bizarroïde. Fabriquée en cuir, elle comprend une têtière, une muserolle et une sous-gorge. Telle qu'elle est, on pourrait la suspendre dans la sellerie d'un club d'équitation. Chez toi, par exemple, Jean-Yves, personne ne la remarquerait si on lui enlevait les multiples cabochons de fer, de plomb ou de bronze doré qui l'ornaient et que l'on a retrouvé dans le tumulus de Gokstad en Norvège. Donc, à part la déco, c'est vraiment un bridon comme on en a tous et comme on en fabrique toujours maintenant. Alors, le mort en bronze de fer est du type mort à aiguille. Donc, tu peux nous expliquer en deux mots qu'est-ce que c'est qu'un mort à aiguille?
Mais ce sont deux branches parallèles qui empêchent le mort de passer dans la bouche, carrément, quoi. Donc, l'école de Vienne fait ça, se sert de mort à aiguille. Moi, je me suis aussi également servi de mort à aiguille parce qu'il vient dans la bouche, il est bien en place.
Voilà, c'est ça, il risque pas de glisser d'un côté ou de l'autre. Et par contre, évidemment, sans gourmette. En fait, il est en tout point semblable au mort mongol. Hein. C'est tout à fait pareil. Alors, son canon est brisé, mais conserve néanmoins une action puissante. Alors là, c'est moins sympa pour le cheval. Donc, une action puissante sur les barres du cheval, dans la mesure où il est forgé torsadé avec des arêtes vives. Donc, c'est vrai que pour le cheval, ça devait pas être très très compliqué. Et on imagine que le cheval devait être content de le quitter. Hein. Quand ça s'arrêtait, quand on le débridait, il devait être assez content. Alors, en fait, sans avoir acquis une renommée de peuple cavalier, à l'instar des Mongols, des Arabes, des Scythes, des Perses ou bien encore des Parthes, les Vikings ont réussi à se tailler une place plus qu'honorable dans l'art d'élever, d'éduquer et d'utiliser le cheval. Voilà. Donc, ils tiennent pas la première place du podium, mais ils sont bien installés sur la seconde, je peux dire. Bon, toi, t'es hors concours, tu sais, voilà, t'es même plus sur la première place du podium, tu es hors concours, tu es au-dessus. Tu regardes tout ça. Alors, Jean-Yves, je crois que tu as un texte à lire à nos auditeurs maintenant.
Ben ça c'est pour le cheval en liberté, parce qu'après le magnifique spectacle qu'on a vu présenté par Lorenzo, par Clémence et par tous les acteurs du Salon du Cheval d'Albi, moi je trouve que c'est un spectacle de qualité extraordinaire et qui vient bien en conclusion de ma question d'équitation, le cheval dans le désir de communiquer. Alors c'est « Et Dieu prit une poignée de vent du sud, y étendit son souffle et cria le cheval. Noblesse sans arrogance, cheval souverain, dans la puissance et la grâce, cheval libre, comme un présage d'aventure et d'amitié. Ici, le cheval, en liberté, vient à la rencontre de la main qui le flatte, de la voix qui parle son langage, lien invisible de la confiance qui cultive la fleur de gaieté du jeune âge et le désir du jeu. Désir qui prend forme de danse, force qui se fait douceur, cheval poésie, cheval complice, conquête d'un cœur par l'autre. La beauté ici n'est autre que l'expression visible de l'amour. »
Écoute, Jean-Yves, ça c'est formidable, c'est un très très beau texte, effectivement. Si on n'a pas envie ensuite de s'initier à l'équitation et voire d'aller plus loin, c'est...
Et surtout du cheval en liberté.
Et du cheval en liberté.
Qui n'est tenu par rien, qui n'a pas de moyens empiriques, mais qui se donne à ce désir de communiquer et qui fait des choses extraordinaires, ce que nous avons vu.
Et ce que tu fais toi-même très bien, puisque tes chevaux, tu les as souvent travaillés en liberté, c'est toujours extraordinaire de voir cette complicité entre le cheval et toi-même, où on a l'impression que c'est plus qu'un contact, c'est une espèce de d'amitié réciproque.
C'est de l'amour.
C'est de l'amour, oui, peut-être,
absolument. De l'amour.
Et on voit que le cheval s'amuse, on voit que le cheval est heureux de caracoler autour de toi, et avec une conscience extraordinaire. Tu peux faire ça au milieu des gens, à aucun moment, bien que le cheval fasse des courbettes, des pirouettes, etc., les spectateurs sont absolument pas en danger.
C'est une conquête d'un cœur par l'autre.
C'est une conquête d'un cœur par l'autre. Alors, Jean-Yves, en quelques mots, le dicton de la semaine, si tu veux que ton cheval soit confiant avec toi, commence d'abord par lui faire confiance. Il n'attend que ça.
À la confiance, c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses qu'on doit essayer de créer et de cultiver continuellement. Il faut que le cheval s'en cultive par la nourriture, par la présence, par l'amour, par la passion, et par y être, que je ne cesse de dire continuellement quand je donne des conseils à des cavaliers qui veulent se réaliser, qui veulent faire des choses un peu intimes et profondes et trapues avec les chevaux.
C'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure, 12h35, et même adresse pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui, non pas pour s'en servir, Jean-Yves, mais...
pour le servir.
Sur CFM Rodez 107.9 et sur CFM Villefranche-de-Rouer 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine et un grand bravo
à nos chevaux. Chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Non, 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 non. Hey, hey, marche droit et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Que tu as perdu, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Sur la route du sel, d'aigle mort à Rodez, en passant par Salmières, du Languedoc au Rouergue, après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Millau, les Vézoux, Salmières, du milieu du sel, patrie de Béranger, de Landor, capitale du Rouergue de Rodez. Entrez dans la légende de la route du sel. Entrez dans la légende de la route du sel.